Bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de perception du temps, de temps intérieur, de sentiments de manque ou d'abondance de temps, et de tout notre imaginaire intérieur autour du temps. Alors là, je me suis posée dans mon petit dressing pour enregistrer ce podcast. C'est un peu le bazar autour de moi parce que je suis en plein tri hiver-été de la garde-robe, si vous voulez tout savoir. Je me suis servi un verre de Jimber, qui est une boisson au gingembre sans alcool, avec de l'eau. Parce que ça y est, il fait chaud. Je sais pas quelle saison c'est au moment où vous écoutez ce podcast et quelle température il fait chez vous. Mais ici, au moment où je l'enregistre, on est au mois de mai, à Paris. Et il fait chaud. Et donc ce mois-ci, un sujet qui m'a beaucoup occupé l'esprit et qui continue à m'occuper l'esprit au quotidien, c'est justement le sujet du rapport au temps et de cette sensation permanente de manquer de temps, qui est ce dont je souffre depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est un sujet qui m'a beaucoup occupé ce mois-ci, parce que je pense que notre relation au temps joue un rôle important dans notre sérénité, dans notre rapport au travail, aux tâches, au stress, mais aussi dans notre rapport à la vie personnelle et ce qu'on s'autorise à prendre du temps pour faire. Et je pense que ça a également un rôle sur nos relations. C'est-à-dire que si on a l'impression de tout le temps courir après le temps, de ne jamais rien avoir le temps de faire, peut-être qu'on consacre moins de temps à créer et cultiver des relations avec nos proches. Ce qui a déclenché toute cette réflexion, en tout cas ce qui l'a conscientisé, pour ainsi dire, c'est un commentaire sur le Discord, donc le salon privé qu'on a sur l'application Discord avec les mécènes de Patreon. Et donc une des mécènes a posté un message à propos de sa difficulté à se réapproprier son temps intérieur, comme quoi c'était un obstacle pour elle vers une vie plus simple et sereine. Et c'est un commentaire qui a beaucoup résonné en moi parce que en ce moment je suis en train de vivre exactement le même obstacle. Et en fait, c'est l'expression « se réapproprier son temps intérieur » qui m'a beaucoup marquée. Donc moi qui suis déjà en train de me poser beaucoup de questions sur le rôle du mental dans le stress, comme vous avez pu l'écouter dans le podcast précédent, je trouve que c'est finalement la suite logique de cette discussion. Parce que le temps, finalement, c'est quelque chose de mental, c'est quelque chose de subjectif, et c'est quelque chose de psychologique. Concrètement, tout le monde dispose de la même quantité de temps. Le moment présent, à tout moment, jusqu'à notre dernier souffle. Il n'y a pas de moment présent où on est vivant et où il n'y a pas de présent, ça n'existe pas en fait. C'est une ressource dont on dispose exactement ce dont on a besoin, ni plus ni moins, pendant toute notre vie. On ne sera jamais à court de moment présent. Et bien sûr, chacun d'entre nous dispose du même temps global, celui qu'on a découpé en 24 heures, par jour, en 7 jours par semaine, etc., etc. Et pourtant, le passage du temps est relatif. Il dépend de notre attention au présent, de notre perception du temps qui passe, et probablement de plein d'autres choses qui me dépassent complètement, parce que c'est un phénomène qui est étudié en psychologie, en neurosciences, en choses comme ça, donc c'est quelque chose qui est très bien documenté et qui est très largement au-dessus de mon expertise pour toute la considération scientifique des choses. Pour vous donner des exemples vraiment d'expériences humaines. Par exemple, j'ai ce souvenir dans mon enfance de ma maman au printemps qui faisait tremper les fraises dans un mélange d'eau et de vinaigre avant de les rincer et de les sucrer pour qu'on puisse les manger. J'ai toujours adoré les fruits rouges. Les fraises et les cerises en particulier sont mes deux préférés. Et ce sont des fruits qui sont disponibles qu'en saison. Donc je suis d'autant plus ravie de les manger quand ils sont disponibles. Et j'ai ce souvenir d'attendre devant l'évier. Attendre que les fraises aient fini de tremper, qu'elles soient nettoyées pour que je puisse en manger une. Et j'avais l'impression que ces fraises trempaient dans le vinaigre pendant des heures et des heures et des heures. Alors que je suis sûre qu'en fait, elles les faisaient tremper peut-être 10 minutes. Le temps passait lentement dans le regard d'une enfant pressée de manger sa fraise. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Je remplis mon agenda de meetings, de tâches, de rendez-vous, de courses à faire, et à peine je me suis installée au petit matin avec mon café, j'ai l'impression de rentrer dans une valse effrénée jusqu'à m'effondrer dans le canapé avec une série ou un livre à 18h, le corps et l'esprit fatigués, mais avec l'impression que la journée est passée en un clignement de paupières. quand on s'organise, et je suis la première à réfléchir de cette manière en tant qu'artiste pluriel, on raisonne en termes de temps objectif. C'est-à-dire qu'on s'organise autour des heures qu'on a à disposition. On s'organise autour d'un agenda, de tâches, de plages de temps de travail. Et justement, ces dernières semaines, j'ai cherché à baisser mon stress en créant des plages de temps dans mon calendrier Google pour me rassurer que j'aurai bel et bien assez de temps pour tout accomplir. Je prends le temps chaque semaine pour noter les tâches que je veux faire, les trier par ordre de priorité et ensuite venir les mettre dans mes petites cases de l'agenda pour voir si j'aurai le temps de tout faire, prioriser ce qui est le plus important d'abord et puis chaque matin de choisir une priorité pour la journée, de me dire que si au moins j'ai accompli ça, je serai contente. Et ça me permet d'être moins stressée, moins pressée, de me sentir rassurée sur le fait que j'aurai assez de temps pour tout faire. Parce que mon temps intérieur, lui, il est compressé. J'ai la sensation de ne jamais avoir le temps de tout faire. J'ai la sensation qu'il me faudrait 3 journées par jour pour accomplir toutes les idées qui me traversent l'esprit tous les jours. J'ai la sensation que la réalité avance tellement moins vite que mes idées. J'ai la sensation que tout avance si lentement, ou plutôt que le temps passe si vite que je peux en faire si peu, que le temps, paf, c'est déjà la fin de la journée. Là, j'enregistre ce podcast, il est déjà 16h45. J'ai l'impression que j'ai fini de boire mon café du matin, il n'y a même pas une heure, je ne sais pas où la journée est passée. Le seul indice que la journée est passée, c'est que je commence à être fatiguée et que je me réjouis de finir l'enregistrement de ce podcast pour pouvoir aller prendre une pause. Et j'ai pris conscience d'une chose ce mois-ci, je peux optimiser mon organisation concrète, celle qui parle en tâches et en heures autant que je veux, parce qu'honnêtement, je pense qu'à ce stade, mon organisation, elle est quand même hyper à la fois carrée, flexible, très bien adaptée à mon fonctionnement. Je pense que je peux difficilement améliorer encore plus mon organisation par rapport à comment elle est optimisée aujourd'hui. Mais si je ne me réapproprie pas mon temps intérieur, si je ne reprends pas la souveraineté intérieure sur ma perception du temps, quoi que je fasse, je continuerai à avoir l'impression que le temps me file entre les doigts. Et ce, quelle que soit la quantité objective de choses que j'ai à faire dans mon quotidien. Parce que c'est pas la faute des tâches et des heures, tout ça. Ce sentiment que le temps me file entre les doigts, ce sentiment que j'ai jamais le temps de rien faire, que les journées passent trop vite, que j'ai toujours plein de tâches, que je suis jamais tranquille. C'est pas la faute des tâches et des heures, tout ça. C'est lié à mon imaginaire intérieur, c'est lié à ma perception du temps, c'est lié aux pensées que je nourris autour du temps. C'est lié à ma capacité, ou en l'occurrence mon incapacité, à m'ancrer dans le moment présent et regarder le temps qui passe, comme je le faisais quand j'étais petite, quand je regardais les fleurs dans les champs, quand j'attendais les fraises qui trempaient, quand j'observais le ciel d'orage au cœur de l'été. Alors comment reprendre la souveraineté sur mon temps intérieur, quelles que soient les contraintes réelles sur mes tâches et mes heures ? Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. Je pense que cette idée de temps intérieur, c'est un sujet que j'aborderai au fil des semaines et des mois, parce que c'est un sujet très vaste. Et ce ne sont pas des réflexions nouvelles. Plein de sujets que j'ai découverts au fil de mes explorations slow ces dernières années sont liés finalement à cette question fondamentale. Ce mois-ci, ce qui a changé pour moi, c'est que j'ai décidé de mettre mon intention dessus. J'ai décidé de porter mon attention sur mon rapport actuel au temps. Pourquoi j'entretiens ce rapport-là avec le temps? Et comment est-ce que je pourrais cultiver un imaginaire intérieur propice à ralentir, à savourer, à mener une vie plus sereine dans le monde moderne. Alors, où j'en suis aujourd'hui, justement, dans cet imaginaire intérieur par rapport au temps? Si vous écoutez ce podcast et que vous vous sentez concerné par cette question du temps intérieur, ça peut être intéressant pour vous de vous poser aussi cette question pour vous-même. Quel est votre rapport au temps aujourd'hui? De mon côté, j'ai beaucoup travaillé sur le côté externe, comme je vous disais, j'ai optimisé mon organisation, J'ai quitté le salariat pour devenir indépendante, pour gagner en liberté et en flexibilité sur l'organisation de mon temps. J'ai appris au fil des années à dire non à des initiatives qui ne me font pas vibrer profondément ou qui n'avancent pas mes priorités à moi. Mais mon imaginaire intérieur... Alors, pour me donner du crédit, je pense qu'il a quand même pas mal évolué en 12 années de réflexion simple et sereine, dont 6 années d'artiste indépendante. Hein. Je pense que beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Si je regardais mon imaginaire intérieur en 2010, ce serait très, très différent d'aujourd'hui. Donc, que je puisse quand même savourer le chemin parcouru. Mais, alors que j'ai eu une première moitié d'année particulièrement stressante, je me rends compte ce mois-ci que j'ai encore beaucoup de travail intérieur qui m'attend dans mon rapport au temps. Parce que, au final, aujourd'hui, je continue à voir les tâches comme des urgences à cocher aussi vite que possible, sans quoi je ne peux pas me relaxer. Parce que j'ai du mal à m'autoriser à ne rien faire, ou à faire des choses qui me nourrissent intérieurement mais qui n'apportent rien à mes projets concrets. J'ai du mal à m'autoriser à prendre du temps pour moi, en fait. Pour moi, pour mes proches, pour ma vie personnelle, pour mon bien-être physique, mental, émotionnel. J'ai beaucoup de mal à m'autoriser à faire ça. Parce que de voir l'ampleur des projets que j'ai lancés, dans la diversité de mes activités, d'artiste, de créatrice de contenu, d'éditrice, ça me crée du stress, ça me crée de la pression, et ça me crée de la peur de ne pas avoir le temps de tout faire. Parce que je vis encore dans un état d'esprit de manque de temps. C'est ça le fond du problème pour moi personnellement. Je vis dans un état d'esprit de sentiment permanent de manquer de temps. De courir sans cesse après des accomplissements futurs et de me sentir pas assez. Que j'ai pas assez accompli, que j'ai pas assez fait. Que le temps passe trop vite. Parce que j'ai beaucoup de mal à me focaliser sur ma présence à l'instant. Sur ma qualité de vie quotidienne. J'ai beaucoup de mal à savourer les moments que je vis ici. Et maintenant, parce que mon esprit s'envole dans d'impossibles échafaudages et idées du futur. Je suis tout le temps en projection, mais même si c'est juste la projection de ce que je vais faire après ce que je suis en train de faire maintenant. Ça peut être une projection dans 10 ans, avec des tas d'objectifs, avec des tas de plans, etc. Mais ça peut aussi être tout simplement une projection à cet après-midi. Est-ce que je vais avoir le temps? Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, j'ai ça et ça et ça et ça et ça. Et mon esprit, il est projeté dans cet après-midi, ou ce soir, ou demain matin, plutôt que d'être ici et maintenant, en train de remarquer ce que je suis en train de faire, remarquer ce que je suis en train de vivre, et savourer ce que je suis en train de vivre. Même si ce que je suis en train de faire ou de vivre, c'est une tâche administrative, du travail, du ménage, peu importe. Je pense sincèrement que on peut savourer tous les moments de vie, ou quasiment tous les moments de vie, même ceux qui sont des moments qui sont pas du loisir ou du plaisir à l'état pur, vous voyez ce que je veux dire. On peut savourer une session de travail si on est présent et qu'on remarque les petites choses qui se passent bien et qu'on ressent de la gratitude. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire en ce moment, dans mon rapport au temps, parce que j'ai cette sensation permanente de manquer de temps. Donc, je vais pas juste vous laisser avec ma complainte du temps perdu. J'ai réfléchi à quelques pistes de réflexion pour déconstruire et cultiver tout ça dans les prochains mois. Donc, je pense que c'est honnêtement ce genre de travail-là de déconstruction du rapport au temps. C'est quelque chose qui prend des mois, qui prend des années. Donc là, je vous partage juste quelques pistes que je suis en train d'explorer moi-même. On en reparlera dans d'autres contenus. Mais si ça peut vous aussi vous créer des pistes de réflexion, des idées à partir desquelles venir... explorer plus avant pour vous-même, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager avec vous. Donc la première piste concerne ce qu'on considère comme des obligations sociales ou des obligations de la vie quotidienne d'adulte. Des choses qu'on se sent contraint à faire parce qu'il faut les faire, parce que tout le monde le fait, parce que c'est ce qui se fait. Et dans notre quotidien, je pense qu'on considère, ou en tout cas moi, j'ai longtemps considéré beaucoup de choses comme des contraintes, comme des choses qui me sont imposées et qui me volent mon temps. Et ce que j'ai envie de proposer par rapport à cette piste-là, c'est de reprendre la souveraineté sur nos choix et sur notre capacité à choisir, notre possibilité de choisir. Et si on prenait la responsabilité de ce qu'on choisit de faire ? Par exemple, oui, je choisis d'aller travailler le matin. En l'occurrence, je suis indépendante, mais je choisis de continuer à faire ma mission de freelance en communication. pas parce que je suis contrainte. Aujourd'hui, je vis dans un pays, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais je vis en France, en 2022. C'est dans un pays où je pourrais survivre sans travailler, c'est possible. Avec la sécurité sociale, avec le chômage, le RSA, ce genre d'aide-là, probablement en quittant la région parisienne et en habitant dans une région où le coût de la vie est inférieur, je pourrais décider, je pourrais faire le choix d'arrêter de gagner de l'argent par mon travail. Ça entraîne plein d'inconvénients, et je vais y venir, mais c'est possible. Donc même si je pourrais, demain, démissionner, m'arrêter de travailler, je choisis de continuer à travailler. Pourquoi ? Le pourquoi, c'est ça la clé, en fait, de reprendre la souveraineté sur notre choix. Pourquoi est-ce que je choisis de continuer à aller travailler ? Au lieu de voir mon travail comme une contrainte, parce que je suis bien obligée, parce qu'on vient d'une société où si je gagne pas d'argent, je suis foutue, en réalité, j'ai le choix. Je pourrais aussi décider de faire un programme de reconversion, je pourrais décider de chercher un autre type de travail, je pourrais déménager, changer de pays. Mais vraiment, en plus, après, je prends conscience de ma position privilégiée par rapport à ça, en tant que Française dans un pays occidental, même si j'appartiens à la force de travail, c'est-à-dire que je ne suis pas riche dans le sens où je ne suis pas rentière, j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent, mais je suis tout de même dans une position extrêmement privilégiée, je le reconnais, et je l'admets. Mais malgré cette position privilégiée, je pense que nous sommes très nombreux et nombreuses dans le monde moderne, dans ce genre de position-là, être en classe moyenne de pays occidental, à ne pas avoir conscience des choix qu'on a vraiment. Et à se sentir contraint dans une position où on n'est pas contraint. Des alternatives, il y en a. Il y en a plein. Et je vous parle d'expérience, hein, parce qu'à l'époque où j'ai fait mon burn-out, j'avais cette sensation d'être enfermée dans mon boulot et de ne pas avoir le choix et de finir sous les ponts si je ne me force pas à continuer à travailler. Donc le pourquoi, c'est la clé. Pourquoi est-ce que je continue à aller travailler ? Peut-être parce que j'ai envie de gagner un petit peu plus d'argent pour me faire plaisir, nourrir des projets qui me tiennent à cœur, nourrir ma famille, faire plaisir à mes proches, avoir un meilleur niveau de vie. On peut avoir envie de confort, c'est un désir qui est tout à fait légitime. Peut-être aussi parce que je ne veux pas rester à la maison à ne rien faire, que j'aurai l'impression de m'ennuyer, que j'ai envie de voir des collègues. Peut-être parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, qui stimule mon intellect et que je me ferai chier toute seule à la maison. Là, c'est des exemples que je donne, hein, qui ne s'appliquent pas, je dis « je », mais qui ne s'appliquent pas forcément tous à moi. Je pense que si vous vous posez la question de pourquoi vous travaillez ou pourquoi vous avez envie de travailler, vos réponses à vous seront différentes des miennes, mais on a des raisons. Et en fait, l'avantage de se poser cette question, de se demander pourquoi, quelles sont mes raisons, ça va être derrière de reprendre possession de ce choix. Au lieu de me dire « je subis mon travail », je me dis « bah non, je choisis de travailler parce que j'ai envie de gagner cet argent, parce que j'ai envie de financer la maison d'édition Café aux Étoiles, parce que j'ai envie de vivre confortablement, parce que j'ai envie d'avoir des moyens pour partir en vacances, mais aussi d'avoir des moyens pour aider ma famille, parce que j'ai envie de ceci, parce que j'ai envie de cela. » Et peut-être qu'en faisant cette liste de raisons, vous allez vous rendre compte que soit vous n'avez pas très envie de travailler, en fait, et que vous pourriez trouver d'autres solutions, soit que vous avez envie de gagner de l'argent, etc., mais que le problème est ailleurs, qu'il y a un problème avec ce travail-là. Pourquoi est-ce que je m'infligerais ce travail-là ? Pourquoi est-ce que je m'infligerais de me laisser traiter comme ça, si c'est des conditions de travail qui sont inacceptables ? Et du coup, là, ça peut ouvrir justement la porte à d'autres choix. C'est ça aussi le pouvoir, quelque part, de reprendre la souveraineté sur nos choix. Ça veut aussi dire prendre conscience des alternatives. Quand on prend conscience qu'on a le choix, on prend conscience des alternatives. Et les alternatives à un travail qui ne nous satisfait plus, c'est pas forcément juste démissionner. Il peut y avoir plein d'autres alternatives. Sauf que tant qu'on se sent contraint, tant qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on est aveugle à ces alternatives. Et quand je dis « on », je veux dire « je ». Parce que c'est exactement la situation dans laquelle j'étais à l'époque où j'étais en burn-out. Donc là, j'ai un exemple qui est à la fois particulier et je pense très répandu dans le monde moderne, qui est le fait de devoir travailler pour gagner de l'argent. Mais il existe plein d'autres exemples de ce genre-là. On peut choisir de quitter son ou sa compagne. On peut choisir de déménager ailleurs. On peut choisir d'appeler un ami pour annuler une soirée à laquelle on s'est engagé et qu'en fait on n'a pas du tout envie de faire. Il y a plein de choses qu'on peut choisir de faire. Mon point ici, c'est de prendre conscience du possible, en fait. prendre conscience des choix dont nous disposons réellement. Et peut-être qu'après avoir pris conscience de ça, on va décider de confirmer nos choix actuels, sauf qu'on ne les subit plus. On a repris la souveraineté sur ces choix-là. Donc on a transformé une contrainte en choix. On sait qu'on pourrait choisir autre chose et on s'est rappelé pourquoi on a fait ce choix-là et pourquoi on vient de choisir de continuer à faire ce choix-là. Et ça, ça nourrit notre souveraineté intérieure, ça nourrit notre sentiment de contrôler notre vie, notre sentiment d'avoir décidé de passer du temps là-dessus. Et là, du coup, on a moins l'impression qu'on nous vole notre temps. On reprend la souveraineté sur le fait qu'on a choisi de consacrer du temps à ça. Et à l'inverse, bien sûr, hein, c'est le genre de questionnement qui peut mener à changer nos choix, à réorienter notre vie différemment. Mais c'est un sujet pour un autre jour. Derrière cette première piste d'obligation sociale, il y a aussi tout un sujet très très vaste et qui mérite aussi un contenu à part, qui est cette idée de vouloir faire plaisir aux autres. Cette idée de sacrifice de soi pour s'occuper des besoins des autres et faire toutes ces convenances sociales parce que c'est ce qui se fait. Tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, parce que c'est tout un sujet, hein, il y a les 5 drivers avec le côté « sois parfaite, fais plaisir », etc. Beaucoup de femmes en particulier qui sont très 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 sujettes à ça, beaucoup plus que les hommes. C'est un très très vaste sujet. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est que rien n'est obligatoire. Vous êtes adulte, responsable et libre. En tout cas, si vous n'êtes pas adulte, ce podcast est fait pour les adultes et pas pour les enfants. Je vous invite à remettre en cause, en fait, ce qui est dans votre agenda, ce qui est dans votre charge mentale. Et osez vous demander, vous, ce que vous avez envie de faire. Comment vous avez envie de montrer votre attachement aux gens que vous aimez, au lieu de vous soumettre à des contraintes sociales qui veulent rien dire pour vous. N'hésitez pas à remettre en cause les règles qu'on nous impose. Vous êtes des adultes, pensants, indépendants, capables d'esprit critique, utilisez-le. Ces contraintes sociales, vous n'êtes pas obligé de vous y plier, c'est votre choix. Pour aller plus loin là-dessus, je vous conseille, j'en ai déjà parlé, la lecture de Le courage de ne pas être aimé par, je ne connais plus son nom, c'est un japonais, je crois que c'est deux japonais qui ont écrit ça, à partir de la philosophie d'Alfred Adler, qui est un psychologue de l'époque de Freud et Jung, Le courage de ne pas être aimé. Parce qu'il parle de ça, justement. Il parle de se libérer du carcan social, d'apprendre à penser pour soi-même, de prendre ses responsabilités d'adulte, ce qu'il appelle nos tâches de la vie en tant qu'adulte. Et tout ce sujet des choix, des obligations sociales, de reprendre la souveraineté sur nos choix, c'est exactement ce qu'il aborde. Ces deux japonais dont j'ai perdu le nom parlent dans ce livre. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous tourner vers ce livre, Le courage de ne pas être aimé. La deuxième piste, c'est notre rapport aux tâches, au travail, à tout ce qu'on a à faire dans notre vie d'adulte. Ça, c'est un sujet que j'ai déjà abordé par le passé, c'est-à-dire que nous vivons dans une société qui formate notre imaginaire intérieur autour de la productivité, du travail et de la rentabilité. Personnellement, je pense que mon rapport aux tâches que je vois comme des urgences à cocher le plus vite possible, comme quoi je n'ai pas le droit de me reposer tant que les tâches sont pas cochées, qu'elles me stressent tant qu'elles sont pas cochées, que j'arrive pas à me reposer tant que j'ai la sensation d'avoir des choses à faire, je pense que cet état d'esprit-là, il est lié à cette pression collective de la société moderne à être productif, à être rentable, que notre valeur est liée au travail qu'on fait et que tout temps qui n'est pas du temps rentable, c'est forcément du temps perdu. Ici, pour cette piste-là, je pense que ça peut être utile de commencer par conscientiser, en fait, prendre conscience de ces messages omniprésents dans la société moderne, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes. C'est pas comme si on avait un Big Brother qui arrivait et puis qui nous livrait des pamphlets avec marqué tous ces messages de manière tout à fait ouverte et consciente. Je pense que c'est aussi une culture qui s'auto-perpétue à travers plein de choses qui sont hyper subtiles. Donc c'est pas forcément évident de prendre conscience de ça. Donc ça peut déjà être une première étape de prendre conscience de ça. Pour ce faire, je vous conseille deux livres. Je sais pas s'ils ont été traduits en français, mais en tout cas je vous les conseille. Je vous donne les titres anglais au cas où pour que vous puissiez vous renseigner. Il y en a un qui s'appelle « How to do nothing » qui veut dire « Comment ne rien faire » par Jenny Odell. Et c'est une grosse publication, donc il y a moyen que depuis soit traduit en français. Et le deuxième s'appelle Laziness does not exist. Donc ça veut dire la paresse n'existe pas, qui a été écrit par le docteur Devon Price. Donc pareil, à voir, ça c'est une, à mon avis, je pense, c'est une petite publication en termes de volume de vente. Donc je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français. Mais c'est deux livres que je trouve très intéressants, qui sont écrits par une nana qui fait Jenny Odell, je crois qu'elle fait de la sociologie, des choses comme ça. Et le docteur Devon Price, c'est un chercheur en, je ne sais pas si c'est pas de la psychologie cognitive ou de neurosciences ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est un docteur, dans le, pas médecin, mais un docteur dans le sens chercheur. Qu'un doctorat. Et donc c'est très très ce sont des livres en fait qui sont des bases de ressources hyper intéressantes, où il y a des pistes de réflexion, où il y a des références concrètes, et où justement dans les deux cas c'est abordé de manière un petit peu différente, mais dans les deux cas ça met à notre conscience ces injonctions inconscientes de la société actuelle, de productivité, de valeurs liées à notre productivité, de temps, de choses comme ça, et qui les défient en fait, qui remettent en question ces pensées là. Donc ça peut être, si vous comprenez l'anglais ou si c'est traduit en français d'ici que vous écoutiez ce podcast, c'est deux lectures qui sont, je pense, très intéressantes à lire à ce sujet. Et une fois qu'on prend conscience de toutes ces pensées-là, là on peut commencer à se demander, est-ce que je suis d'accord ou pas ? Est-ce que je suis d'accord avec l'idée que ma valeur d'être humain, d'être vivant, n'est liée qu'à ce que je produis ? Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Est-ce que je suis d'accord avec le fait d'être traité et de me traiter moi-même comme une ressource, comme une marchandise ? Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Personnellement, aujourd'hui, j'estime que nous sommes des humains et pas des machines, et qu'on est légitime à exister, à être, sans rien faire. On a le droit de vivre, on a le droit de profiter, on a le droit de savourer notre vie. On n'existe pas pour être utile, en fait. On n'est pas, on n'est pas des ressources, on est des êtres vivants. Ça, c'est mon avis personnel. Mais c'est un gros sujet, tout ça, je pense, hein, l'influence socio-culturelle de la culture dans laquelle on baigne sur notre rapport au temps. Et je pense que ça prend beaucoup de temps de déconstruire tout ça, comme mon exemple personnel le montre, puisque j'ai déjà déconstruit beaucoup de choses, et pourtant je suis très stressée, et pourtant je continue à ne pas supporter les tâches qui sont pas cochées, vous voyez. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, si ça peut vous aider, c'est que j'ai décidé de prendre le temps de noter dans un journal toutes les pensées inconscientes que je peux avoir autour de tout ça, en fait, les conscientiser grâce à l'écriture, lorsque je me sens stressée, lorsque je ressens ce sentiment d'urgence. Je prends le temps de me poser, soit dans mon journal, soit dans mon parle-singe, et me demander, ok, qu'est-ce qui me passe par la tête là ? Qu'est-ce que je suis en train de penser ? Pourquoi je me sens stressée ? Pourquoi cette tâche non cochée, elle flotte au-dessus de ma tête ? Qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Faire un petit peu de la connaissance de soi, de venir faire de la reconnaissance un peu de mon imaginaire intérieur pour venir déraciner petit à petit les pensées avec lesquelles je ne suis plus d'accord aujourd'hui. Une troisième piste pour se réapproprier notre temps intérieur, c'est d'avoir conscience de nos rythmes intérieurs. Dans la société dans laquelle on vit, je pense qu'on est très formaté à suivre les rythmes de la société. Que ce soit la journée de travail de 9h à 18h pour les personnes qui ont des boulot classique de bureau, qui tue par exemple tous les gens qui sont plutôt créatifs et productifs la nuit. Ils sont imposés dans ces rythmes de bureau quand même, par exemple. Le fait de se reposer le soir et le week-end, le fait d'être soumis aussi au fait qu'il faut récupérer les enfants à l'école à une certaine heure, que les grandes vacances sont à une certaine heure, etc., à un certain moment, etc. Tant et si bien qu'on se connaît plus. Alors, je suis pas en train de dire que la société ne devrait pas imposer de rythme quand on vit à des millions, des milliards d'êtres humains sur la planète qui devront interagir, qui devront travailler ensemble. Bien évidemment qu'il doit y avoir un minimum de règles pour régir un peu tout ça. Simplement, la conséquence de ça, c'est qu'on ne se connaît plus, nous. On ne connaît plus nos propres rythmes, nos fluctuations d'énergie, nos besoins. Donc je pense qu'il y a aussi une piste autour de notre temps intérieur à suivre, autour du fait de se réapprivoiser soi-même, de prendre le temps d'écouter nos rythmes intérieurs, de remarquer à quel moment de la journée on a davantage d'énergie, à quel moment du mois on est plus propice à créer, à réfléchir, à se reposer, apprendre à remarquer les signes de fatigue quand on a besoin d'une pause, d'avoir la flexibilité d'organisation, que quand on repère des signes de fatigue, on reporte des choses au lendemain. De remarquer aussi quand on a besoin d'autres choses pour nourrir notre énergie. Par exemple, parfois j'ai les batteries à plat et c'est pas parce que j'ai besoin de me reposer, c'est parce que je suis en manque d'inspiration, en manque de lien social, en manque de proximité avec la nature ou d'autres choses encore. Et je pense que de prendre conscience de tout ça, puis ensuite d'expérimenter pour apprendre à l'honorer dans le cadre des contraintes sociales, peut énormément nous aider pour reprendre notre souveraineté intérieure sur notre temps. Parce que je pense, en tout cas c'est mon cas, que les moments où j'ai le plus l'impression que le temps me file entre les doigts, c'est justement quand je ne me suis pas écoutée, quand j'ai pas rempli mes besoins, et quand j'ai l'impression de ne pas avoir passé mon temps comme j'aurais voulu, ou comme j'en aurais eu besoin. Donc peut-être que j'aurais moins l'impression que mon temps me file entre les doigts si j'apprenais davantage à écouter ce qui m'inspire en ce moment, ce que j'ai envie de faire là maintenant, comment sont mes niveaux d'énergie, à quel moment de la journée, de la semaine, du mois, j'ai besoin de faire ceci, cela. Et évidemment, tout ça, c'est à adapter au niveau de contraintes que vous avez dans votre quotidien. Mais quand on en a conscience, on peut au moins faire des aménagements. Ne serait-ce que les personnes qui vont choisir d'écrire le matin, très tôt, avant que les enfants se réveillent, parce qu'ils ont découvert que c'est des gens du matin, versus les gens qui vont se dire « bah moi c'est plutôt la journée, donc je vais plutôt prendre sur ma pause midi pour écrire ». C'est ce que je faisais quand j'étais salariée, j'écrivais sur ma pause midi. Et à l'inverse, les personnes qui vont découvrir que c'est plus des personnes du soir, et qui vont au contraire mettre le réveil le plus tard possible le matin, mais qui vont s'accorder un temps créatif le soir quand la maison est endormie. Ne serait-ce que de faire ce choix-là, encore faut-il vous connaître et savoir à quel moment de la journée vous êtes le ou la plus à même de tirer le meilleur parti de ce temps-là, vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir travailler autour des contraintes de notre vie quotidienne d'adulte dans la société moderne. Enfin, une dernière piste qui m'est venue récemment, là, en écoutant un podcast d'Africa Brook pendant mon sport là, cette semaine, et qui est une piste qui du coup va mériter davantage de réflexion. Mais vu que je suis en train d'enregistrer ce podcast, je me suis dit que j'allais vous la proposer. C'est l'idée de poser des limites internes. C'est-à-dire que souvent, que ce soit dans le coaching, dans l'organisation, dans le développement personnel, etc., on parle des limites qu'on apprend à poser autour du comportement des autres. J'en avais parlé dans le podcast que j'avais intitulé « Attentes et limites ». Dans ce podcast-là, je parlais des limites qu'on pose pour soi, mais par rapport au comportement des autres. Par exemple, je ne répondrai à aucun email après 18h. Donc si quelqu'un m'envoie un mail après 18h, je ne répondrai qu'au plus tôt le lendemain. Je ne prends les réunions qu'à partir de 11h pour avoir le temps d'écrire le matin. Ça, c'est une limite que je pose par rapport aux gens qui voudraient me proposer des réunions, vous voyez. Je réponds aux emails d'artistes en 7 jours ouvrés. Voilà, ça c'est par rapport aux emails que d'autres personnes m'envoient. D'ailleurs, vous pouvez aller lire la page contactfloriteller.com/contact si ça vous intéresse, si vous voulez lire un exemple de limite externe que j'ai posée autour de ma communication en tant qu'artiste. Mais on parle beaucoup moins de limites internes, c'est-à-dire celles qu'on se pose à nous-mêmes, pour notre propre bénéfice vis-à-vis de notre propre comportement et de nos propres attitudes. Moi par exemple, je suis très mauvaise pour m'autoriser à prendre des pauses au fil de la journée. C'est-à-dire que j'ai ma liste de tâches dans mon bullet journal et j'arrive pas à m'arrêter tant que c'est pas tout coché. C'est vraiment un truc sur lequel il faut que je travaille, ça. Je n'arrive pas à me poser si j'ai l'impression que j'ai encore des trucs à faire. Et du coup, une limite interne serait de me dire je me suis mis 1h30 de travail de concentration intense, je me fais une pause de 30 minutes après ce truc qui m'a pris énormément d'énergie. Et respecter ma limite interne, ce serait de me faire prendre cette pause. Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout finir à temps, de me dire tant pis, je prends la pause. C'est ça, se poser une limite interne par rapport à soi-même et ses propres comportements. Et ça, je pense que, en fonction des personnalités de chacun, c'est plus ou moins facile de poser et respecter nos propres limites internes, les propres règles qu'on se fixe pour nous-mêmes, en fait. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'autodiscipline que d'autres. Mais je pense que c'est une réflexion à... une piste à suivre, ça. Comment? Quelles limites on peut se poser vis-à-vis de soi-même? Et comment est-ce qu'on les respecte? Et comment est-ce qu'on se traite pour les respecter? Parce que il faut que je me renseigne là-dessus, j'ai pas fini de me renseigner là-dessus, mais j'ai une intuition que c'est pas en s'auto-flagellant qu'on arrive à la respecter, mais que c'est plutôt en s'aimant soi-même, en s'offrant de la compassion à soi-même, en s'offrant du respect à soi-même, qu'on honore nos limites internes. Par exemple, si je décide d'aller courir avec une copine ou un copain, qu'on s'est donné rendez-vous à une certaine heure avec nos affaires de sport, vu que je respecte mon ami, je me pointe. Et du coup, j'ai l'idée que si je me dis que je vais courir moi toute seule, si je me respecte moi, je me pointe. Donc voilà, je pense que c'est une piste de réflexion à approfondir, mais à mon avis, la réponse se situe davantage dans l'amour et le respect de soi-même plutôt que dans l'autoflagellation, à mon avis. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à partager ce que vous pensez, vous, autour du rapport au temps. Toute cette psychologie autour du temps, où est-ce que vous vous situez, les questions que vous vous posez, si vous avez déjà des conseils, des ressources, des choses que vous pratiquez qui vous aident avec votre rapport au temps, n'hésitez pas à partager tout ça, par exemple en commentaire sous l'émission, sous les notes de l'émission sur floritailleur.com/BN2077. On voit que j'ai passé des années à travailler sur un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077. Donc non, le lien c'est floritailleur.com/BN177 parce que c'est la 177e bulle nomade qui est publiée. Vous retrouverez aussi le script de l'épisode en PDF à cette même page. Vous pouvez aussi partager vos opinions sur le Discord si vous faites partie des mécènes Patreon, sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à lancer une discussion là-dessus, je trouve le sujet absolument passionnant. Et si vous avez envie de plus de contenu sur tout ça, n'oubliez pas que j'ai une lettre qui part un dimanche matin sur deux, ou des fois un dimanche matin sur trois, ça dépend, sur floritailleur.com/lettre. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine.